bonjour régulièrement dans le cadre de votre magazine, nous vous proposerons en nouvelle diffusion des émissions extraites de nos archives. Aujourd'hui, nous avons sélectionné l'interview de Françoise Combes. Françoise Combes dispense des cours au Collège de France. Elle est intervenue en 2010 dans le cadre des conférences de la Société d'Astronomie de Nantes sur le thème « Le gaz de l'univers, traceur de son histoire ».
Je me suis intéressée plutôt à la physique d'abord, et ce que j'avais envie de savoir, c'est la cosmologie, surtout comment l'univers a été créé. Et c'est curieux parce qu'il y a beaucoup d'astronomes professionnels qui observaient les étoiles quand ils étaient jeunes. Moi, pas du tout. Je n'observais pas le ciel du tout, mais par contre, j'étais intéressée plus intellectuellement à la cosmologie, à l'origine de l'univers. Donc j'ai fait de la physique. Et ce n'est qu'un petit peu plus tard que je me suis dirigée vers des sujets de cosmologie théorique. Par exemple, l'univers fait de matière et d'antimatière, etc. Et ensuite, peu à peu, je suis aussi allée à l'observation en astronomie. L'observation, surtout dans les longueurs d'onde radio. J'aime beaucoup savoir comment sont faites les structures, comment sont formées les galaxies, comment se forment les étoiles à partir du gaz. Donc le gaz est le fil conducteur pour savoir comment l'univers évolue. Ce qu'on n'a pas notion, c'est que le gaz est retenu par sa propre gravité. Donc il ne s'en va pas, hein. En fait, c'est vrai dans la Terre non plus d'ailleurs, il ne s'en va pas. L'atmosphère reste piégée par la gravité de la Terre. Et dans l'univers, c'est comme cela. On a des nuages de gaz qui sont retenus par leur propre gravité, puis ensuite qui s'effondrent pour former des étoiles, mais ne se propagent pas dans tout l'univers. C'est la gravité qui domine dans l'univers. Ce qu'on n'a pas vraiment conscience de sur la Terre, où il y a beaucoup d'autres forces, les forces électromagnétiques, d'autres forces nucléaires, etc. Ici, en astronomie, c'est la gravité qui attire tout.
C'est un sujet grave.
Voilà. En fait, le gaz n'est fait que d'hydrogène. Il n'y a qu'un seul gaz, pratiquement. Il est bien un petit peu pollué par de l'hélium, par des petits éléments. Enfin, ce sont toujours des éléments mineurs. Le principal gaz, c'est l'hydrogène. On peut l'avoir sous plusieurs formes. On l'a sous forme atomique, l'atome d'hydrogène. Sous forme moléculaire, la molécule d'hydrogène. Gaz ionisé, c'est-à-dire un proton et un électron. Mais c'est essentiellement le gaz parce qu'il n'y a que l'hydrogène. Le gaz le plus simple, parce qu'il n'y a qu'un seul proton, qu'un seul électron. Et ensuite, peu à peu, il se forme dans les étoiles tous les autres éléments. Donc les éléments lourds, qu'on appelle très lourds, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène dans lesquels nous sommes formés, et qui se concentrent ensuite dans les planètes, parce que dans les planètes, toute la matière organique, c'est carbone, oxygène, etc. Tout ça est formé dans les étoiles. Et les étoiles rejettent en fin de vie les éléments qu'elles ont formés dans les réactions nucléaires qui se passent en leur sein. Mais quand même, l'essentiel du gaz reste très peu enrichi par les métaux. Il y a un gaz primordial, il y a même un pourcentage d'hélium, de lithium, qui sont des éléments primordiaux. On appelle ça primordiaux parce qu'ils se sont formés dans le Big Bang, qui a donné naissance à l'univers. Donc les premières réactions nucléaires ont lieu dans le Big Bang. Et puis ensuite, l'univers se refroidit par expansion, et tous les éléments nouveaux qui pourront se former ne se formeront que dans les étoiles par réaction nucléaire. Donc on a vraiment des éléments primordiaux, hélium, lithium, et évidemment hydrogène, et puis tout le reste ne sera que dans les étoiles. Donc ensuite, on va parler de pollution. Lorsque l'étoile aura terminé sa vie, va rejeter tous ces éléments, et ce sera une pollution. Donc on va pouvoir, par l'abondance du gaz, l'abondance d'éléments lourds, savoir comment il a été pollué et reconnaître son histoire. S'il reste un peu de gaz primordial dans l'univers, on saura qu'il n'a pas été recyclé dans les étoiles, donc il est vraiment, disons, un témoin de son histoire.
C'est là essentiellement l'intérêt de l'étude.
Voilà, c'est ça, c'est l'intérêt d'essayer de remonter comment se sont faites toutes ces étoiles que l'on voit aujourd'hui dans la Voie lactée, par exemple. La plupart des étoiles ont été fabriquées au milieu de l'âge de l'univers, un petit peu au début, et puis au milieu maintenant, ils s'en forment plus beaucoup. Par exemple, la Voie lactée ne forme qu'une à deux étoiles par an. C'est pas beaucoup. Et dans la moitié de l'univers, il y avait des galaxies qui formaient 100 à 1000 étoiles par an. Donc on voit que toutes les étoiles qui nous entourent, c'est des étoiles vieilles qui ont été formées à peu près à la moitié de l'âge de l'univers. Tout ça, on arrive à remonter à tout ça. Pour les autres galaxies, c'est pareil. Oui. Notre Voie lactée n'est pas extraordinaire. Elle est très représentative de toutes les autres galaxies qui existent dans l'univers. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Mais elles sont toutes formées à peu près de façon régulière. Et à peu près à la moitié de l'âge de l'univers, il y a eu une flambée de formation d'étoiles. Et ensuite, dans toutes les galaxies aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'étoiles jeunes qui se forment.
C'est une observation, c'est pas une explication?
C'est à la fois des observations, on a beaucoup d'éléments pour trouver cette déduction, et puis après on le reproduit par des simulations numériques en ordinateur, où on arrive à reproduire une partie de l'univers, on s'amuse comme des fous à reproduire le Big Bang, à reproduire la formation de galaxies, les premières étoiles, et puis ça correspond, enfin on a essayé de faire contraindre ça par des observations, mais on arrive à reproduire un peu toute cette histoire.
Comment c'est mesuré ?
On mesure donc par les émissions. Alors, en astronomie, tout ce qu'on mesure, c'est surtout des photons, de la lumière. Parce que tout ça est tellement loin qu'il n'y a que la lumière qui nous parvient. Peut-être aussi les neutrinos, mais ça, c'est rare. Donc on observe tout ce qui nous parvient et qui nous rayonne de la lumière, donc les étoiles. Le gaz, justement, rayonne aussi, parce qu'il y a beaucoup de raies. La raie de l'hydrogène, par exemple, notamment. Et des raies en optique, des raies dans toutes les longueurs d'onde, radio, etc. Et donc c'est ce rayonnement qui est la mesure du gaz, de sa température, de sa physique. Et puis on mesure parfois des aimants lourds, le carbone, l'oxygène. On mesure dans l'espace interstellaire énormément de molécules. Par exemple, on a à peu près 150 molécules, dont le sel, la molécule du sel. Ça existe dans l'espace interstellaire. On a l'alcool éthylique, le méthane. Tout ça, on a observé dans le milieu interstellaire. Donc on arrive à reconstruire comment se sont faites toutes ces molécules.
On est dans l'infiniment grand avec de l'infiniment petit.
Exactement, oui, on fait. D'ailleurs, on a des programmes comme ça qui s'appellent la physique des deux infinis. Donc, c'est exactement ça. On a des particules, on a des programmes astroparticules, c'est-à-dire on a des galaxies énormes. Et puis, le gros mystère de l'astronomie aujourd'hui, c'est de savoir de quoi sont faites toutes ces structures. L'univers est fait. On a découvert que les trois quarts de l'univers, c'était un élément qu'on appelle énergie noire, mais on ne sait absolument pas de quoi il retourne. Et puis, le reste de la matière, c'est de la matière noire, faite de particules dont on ne connaît pas du tout l'existence, qu'on n'a même pas trouvé dans les accélérateurs. Donc on voit que cette physique de la particule, donc de l'infiniment petit, est vraiment au cœur de l'astronomie. Et les physiciens nucléaires, maintenant, s'intéressent beaucoup à l'univers, car il n'y a que dans l'univers qu'on peut avoir la clé du problème, que sont ces particules nouvelles qu'on ne trouve même pas dans les accélérateurs. Il y a beaucoup, beaucoup de théories qui fleurissent actuellement, justement avec cette énergie sombre, qui serait peut-être un cinquième élément, on l'appelle la quintessence, parce qu'on a déjà quatre éléments connus, on a peut-être un cinquième. Donc les gens inventent, ils ont énormément d'imagination. Les théoriciens, il y a peut-être une théorie par jour qui arrive. Évidemment, la plupart sont éliminées peu à peu, mais on pense à d'autres théories. Par exemple, on pense à modifier même la gravité, parce que pour l'instant, on a deux d'énormes problèmes qui sont la matière que l'on ne voit pas, la matière noire, l'énergie noire, etc., qui forment 90% de la structure de l'univers. Il se pourrait que tous ces éléments n'existent pas, finalement. Si on arrive à changer la gravité, on pourrait avoir la même observation. Ce serait l'existence de la matière noire serait une conséquence de la gravité qu'on suppose être celle d'Einstein et de Newton, et qui ne l'est pas. À ce moment-là, on aurait une autre façon de mesurer la gravité en champ faible, que l'on n'a pas d'autre façon sur Terre de faire. Donc là, on arrive même à révolutionner la physique fondamentale.
Mais comment suivre une démarche scientifique dans un domaine qu'on ne maîtrise pas ?
La science est toujours comme ça. Hein. Ce qu'on découvre, on ne maîtrise pas. On découvre peu à peu, et puis après, peu à peu, on l'enseigne, c'est la science établie, et elle se retrouve dans les bouquins, etc. Mais la science en devenir, la recherche, c'est toujours ça. On avance dans un secteur qui est complètement inconnu, et l'astrophysique est aussi une partie de cette recherche. On va de l'avant, et puis quand on regarde dans les dernières 50 ans, on voit qu'on a énormément fait de progrès, donc c'est quand même rassurant. Mais évidemment, on voit que devant nous, il y a encore plus de problèmes qui s'accumulent.
Qui a l'autorité pour imposer une théorie ? Et comment, à un moment donné, on bascule dans quelque chose qui sort un peu de la culture commune ?
Oui, ça c'est très important. Comment faire ? En fait, beaucoup de gens proposent des théories, mais la plupart, lorsqu'elles se confrontent aux faits, aux réalités, aux observations, ça ne marche plus. Donc on est obligé d'éliminer. La plupart des théories sont éliminées, en fait, 99%. Et donc la seule qui va rester, c'est celle qui répond aux observations et est aussi prédictive. C'est-à-dire qu'elle peut prédire d'autres observations qu'on n'avait pas faites et qu'avec cette prédiction à la théorie, on va faire l'observation. Et si vraiment ça s'avère être exact, à ce moment-là, c'est vraiment un fort point pour la théorie. Donc en général, il y a peu de théories prédictives. Les théories sont faites pour expliquer les observations passées. Et puis ensuite, lorsqu'elles font des prédictions, ça ne marche plus. Donc celles qui sont une prédiction qui est valable, alors là, ça c'est vraiment, elle a gagné au loto.
Sur le curseur de la recherche, vous vous situez où ?
C'est une question difficile. Évidemment, tout le monde espère être dans la course. Et en effet, nous avons déjà proposé deux grandes théories qui ne sont pas encore infirmés, donc ils sont encore dans la course.
Ça m'intéresse.
Par exemple, il y a deux grands problèmes. Hein. Donc, on a proposé une théorie pour expliquer pourquoi il y avait de la matière ordinaire qui manque. On sait bien qu'on connaît la proportion de matière, donc le gaz d'hydrogène, dans l'univers, et on n'en observe que 10%. Donc il faut expliquer où sont partis les 90% restants. Donc on a proposé que ce soit du gaz froid, d'hydrogène moléculaire, qui est complètement invisible lorsqu'il n'y a pas de métaux comme le carbone, l'oxygène. Et pour ça, on a proposé quelques observations. Pour l'instant, elles sont encore compatibles avec cette idée. Mais il faudra attendre encore quelques années pour vraiment confirmer ou infirmer. Et puis, on suit aussi d'autres théories qui sont aussi celles d'autres. Hein. On est plusieurs à la proposer. De gravité modifiée qui expliquerait la courbe de rotation des galaxies sans matière noire. Donc ça rencontre quelques difficultés, mais comme la théorie standard aussi rencontre des difficultés, donc on est tous au même niveau. Et puis dans quelques années, peut-être on aura raffiné la théorie pour que ça puisse résoudre toutes ces difficultés. Pour l'instant, aucune théorie ne marche, il faut le savoir. Donc tout le monde est en course et on verra le résultat dans quelques années.
Qu'est-ce qui porte la réflexion ?
C'est très scientifique en fait. On a un peu d'intuition, c'est sûr, mais on ne peut pas émettre une idée sans qu'elle soit quand même étayée par un certain nombre de faits. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a énormément d'observations. Donc, l'essentiel, c'est de bien les digérer et puis essayer de retrouver, de les interpréter d'une façon que ça puisse faire de la cohérence. En fait, il y a une accumulation d'observations et en fait, la plupart du temps, les gens ne le voient pas ou alors c'est un petit peu caché. Donc, il faut vraiment essayer de les détecter, de les dissecter et puis d'essayer de trouver un sens là-dedans et de pouvoir émettre. C'est comme un puzzle, en fait. Donc, on émet quelques pièces et on voit si ça marche. Et puis, ça ne marche pas, on en reprend d'autres, etc. Donc, c'est ainsi que ça progresse.
Il y a plein d'éléments qui brouillent.
Il y a en effet, comme dans toute science, hein, en astrophysique, c'est un petit peu pareil. Il y a une théorie standard, il y a ce qu'on appelle un courant principal.
Qui est dominant,
évidemment. Mmh. Et si on s'éloigne trop de ce courant, évidemment, on ne va pas être suivi, on va avoir des problèmes, par exemple, dans les conférences, etc. Donc il faut quand même avoir un petit peu d'audace, de témérité, peut-être, pour essayer de suivre des sentiers qui ne sont pas battus. Ça, peut-être tout le monde ne le fait pas, mais il y en a quand même pas mal qui le font. Hein. On n'a pas de tabou en astrophysique ou en science. On peut aller dans tous les chemins que l'on veut, donc on a liberté. Mais certains n'aiment pas aller dans certains domaines un petit peu trop incertains, un petit peu trop exotiques. Donc il y a quand même, je dirais, 10% des gens qui vont dans ces sentiers qui ne sont pas battus par tout le monde. Mais bon, ils reviennent dans le droit chemin lorsque la piste ne mène à rien aussi. La science, elle n'est pas tellement individuelle, on est des petits groupes. Les groupes ne sont pas encore énormes. En physique nucléaire, par exemple, il y a des groupes de 100 personnes parce qu'il y a des grands instruments. Et donc, il y a plein de personnes qui doivent construire l'instrument, etc. En astrophysique, c'est des petits groupes, je dirais, d'une dizaine de personnes au maximum, peut-être parfois même 3 ou 4. Et donc, ils travaillent un petit peu ensemble pour se stimuler, pour discuter ensemble. Ça va beaucoup plus vite, c'est plus efficace que d'être tout seul dans son coin. Et puis, c'est bien plus agréable aussi de discuter, de déguiser un petit peu ses réparties. Donc, on travaille en petits groupes de 3 ou 4. Mais ça peut évoluer. Parfois, c'est avec un groupe, parfois, c'est un autre. Et puis, on n'a pas la pression des instruments parce que les grands télescopes sont construits par des pays. C'est un petit peu mondial. Et donc, nous, on va sur les instruments pour observer, mais on n'est pas obligé de les construire. Donc, on a des équipes qui sont un peu petites et plutôt théoriques. Il y a tous les niveaux. Quand on dit de nouvelles théories, il y en a une qui peut être fondamentale, comme par exemple modifier la gravité, ça va changer énormément de choses. Donc ça a un grand poids. Par contre, il y a aussi des tas d'autres petits problèmes qu'on aimerait résoudre. Et donc c'est des théories d'un petit peu moins visibles, peut-être pas, qui ne vont pas révolutionner toute la gravité, toutes les lois fondamentales, mais qui sont quand même des problèmes qu'on aimerait résoudre aussi. Par exemple, formation des galaxies, on ne sait pas pourquoi ils se forment des galaxies spirales encore aujourd'hui, pourquoi elles sont barrées, pourquoi il y a des bras spiraux, etc. Donc ça, c'est peut-être des problèmes un peu moins fondamentaux, mais qu'on aimerait résoudre. On a résolu quelques-uns déjà, d'ailleurs. Et on aimerait poursuivre dans cette voie. Notre secteur, on n'est pas très sensible. Hein. Je dirais peut-être, si vous avez parlé à un biologiste qui travaille sur les embryons, alors peut-être en effet, on peut avoir des applications dangereuses, etc. Chez nous, on est tellement dans les galaxies, dans les étoiles, que je ne pense pas qu'il y ait d'application ni dangereuse, il n'y a pas de récupération possible. Chez nous, tout marche de façon gratuite d'ailleurs, par exemple. C'est un des secteurs de la science où on n'a pas de propriété.
Nous vous proposons en nouvelle diffusion l'interview de Françoise Combes, réalisée en 2010 avec la complicité de la Société d'astronomie de Nantes.
Et au bout de quelques mois, une fois qu'on a publié, tout le travail qu'on a fait est donné à tout le monde, à toute la communauté. C'est même sur le web, sur Internet, tout le monde peut le piquer. Toutes les photos qu'on a demandées, faites avec le télescope spatial Hubble, par exemple, tout ça est disponible pour toute la communauté. Donc tout ça est gratuit et on ne fait pas vraiment attention à la propriété, justement.
Ça dit aussi sur société de partage.
Voilà, chez nous, vraiment, le partage est total. Mais c'est parce que, justement, il n'y a peut-être pas d'enjeu, hein. Si on avait le virus du sida, découvert le virus du sida, on a vu toutes les histoires qu'il y avait autour de cela. Évidemment, il y a des enjeux économiques tellement grands que les gens se protègent. Bon, il y a aussi dans certains secteurs de chimie, de physique, il y a des brevets à faire, etc. Nous, il n'y a pas de brevet. On n'a aucun brevet sur les étoiles, aucun brevet sur les galaxies. Donc tout ça, c'est plutôt au niveau culturel. Nous, on cherche à faire progresser la connaissance. Tout le monde est curieux, savoir comment ces structures sont faites. Et donc, c'est un petit peu comme un artiste. Nous, on est plutôt en train de progresser, de faire des œuvres, comme quelqu'un ferait un livre, un écrivain ferait un livre, ou un peintre ferait un tableau. Et puis ensuite, on le donne à tout le monde, évidemment, pour que tout le monde en profite. Mais on n'a pas d'enjeu économique majeur, et donc c'est pour ça que tout est partagé, etc.
Chaque être humain aime bien être reconnu dans ce qu'il fait, donc il y a un désir de paternité ou de maternité.
Oui,
et ça, par contre, c'est conservé.
Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a des publications, et ces publications donc, sont sur Internet, et donc on ne dévoile pas jusqu'à ce que la publication soit vraiment terminée. À ce moment-là, on la dévoile, mais les gens devront citer la publication s'ils utilisent ses travaux. C'est gratuit, mais on ne peut pas s'approprier le travail des autres. Et ça, je ne vois pas, enfin, il n'y a pas vraiment de fraude ni de personnes qui violent cette loi.
Il y a des débats avec des gens qui sont violemment opposés.
Oui, il y en a eu un petit peu dans le passé, surtout par exemple, l'univers est en expansion avec une constante qui est la constante de Hubble, et il y avait des débats homériques pour savoir quelle était la valeur de cette constante de Hubble par un facteur 2, donc c'est quand même important de savoir si l'univers est en expansion deux fois plus grande, deux fois plus rapide ou non. Et aujourd'hui, les techniques ont fait qu'on peut déterminer la constante de Hubble à quelques pourcents près. Donc ce débat s'est éteint avec les précisions ultimes apportées par les télescopes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de débats, je pense, parce qu'en fait, autrefois, la cosmologie était beaucoup plus incertaine. C'était à certains moments presque une spéculation plutôt qu'une science, parce qu'on n'avait pas assez de données. Aujourd'hui, les 10 dernières années ont été vraiment une révolution, et toutes les questions qu'on se posait ont été résolues. Toutes les constantes, les paramètres de l'univers ont été déterminés à quelques pourcents près. Donc là, on est maintenant dans la voie d'une science très scientifique, et donc les débats ont disparu.
Mais comment on peut affirmer que tout est quasiment posé ?
J'exagère en disant que tout est posé. En fait, ce qui est posé, c'est les constantes de l'univers, qui étaient incertaines il y a à peine 10 ans. Maintenant, il y a quand même d'énormes problèmes qui sont devant nous, comme la nature de l'énergie sombre, de la matière noire, qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc là, il y a un certain débat, mais il est tellement ouvert qu'il n'y a pas... Les gens ne prennent pas parti de façon féroce, je pense. Il y a énormément de théories qui sont sur le marché, mais chacun essaie de les considérer d'un œil un petit peu objectif et essaie de savoir laquelle est la plus valable. Mais il y a moins d'agressivité que, je dirais, il y a 10 ans. Les gens ont vu qu'il y avait énormément de possibilités et le reconnaissent. Mais par contre, rien n'est encore déterminé. Le problème, c'est qu'on a beaucoup progressé sur les paramètres cosmologiques.
Merci à Françoise Combes pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec la complicité de la Société d'astronomie de Nantes en 2010 et proposé en nouvelle diffusion.
Je vois cette table et je vois qu'elle est plate, elle est de couleur marron. Je ne pense pas que les gens vont débattre là-dessus. C'est un fait qui est posé. Vous n'allez pas vous-même me dire que ce n'est pas vrai, la table est blanche et qu'elle n'est pas plate.
Moi, je veux dire que ce qui est apparemment plat et à l'échelle microscopique.
Oui, donc à cette échelle-là, il y aura un autre fait qui aura des petits... Donc nous serons aussi d'accord.
Donc il faut poser l'échelle, en fait.
Voilà, il faut poser l'échelle. Quand on pose les conditions, il y a un fait qui en sort et celui-là est scientifiquement établi. Et à ce moment-là, on ne le remet pas en cause parce que bon, ce sont les faits.